Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il disait, on s'en souviendra comme les premiers pas du robot social grand public. Et donc, c'est un tournant dans l'histoire. Bon, bah, ça fait un peu pchit, hein.
Plus on va avoir des intelligences artificielles proches de chez nous, dans notre intimité, plus on va vouloir leur faire confiance.
Ça va tout le monde ? Pas d'esclaves pour ma colonie de robots ?
Salut, c'est Xavier Yvon.
Nous sommes le vendredi 30 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
Dans les années 80, les robots parlaient avec cette voix métallique et saccadée.
Puis, dans les années 90, ils ont gagné en naturel.
Ils se sont développés au tournant du 21e siècle. Et aujourd'hui, en 2021, ils sont partout, ils parlent comme nous. D'ailleurs, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais c'est un robot qui vous parle. J'imite parfaitement la voix de Xavier Yvon, qui est déjà parti en vacances. Bon, en fait, c'est faux, c'est bien moi, Xavier Yvon. Je suis encore là dans le studio de La Loupe et je n'ai pas de robot pour me remplacer. Enfin, pas encore. Il y a bien des robots dans l'industrie pour fabriquer, stocker, transporter. Mais les robots sociaux qui nous ressemblent, qui nous parlent, qui nous facilitent la vie, eux, ne sont pas encore vraiment arrivés. Vous le savez, cette semaine dans La Loupe, on vous propose 5 épisodes sur les idées folles qui révolutionneront le monde de demain. Aujourd'hui donc, les robots de demain et surtout d'après-demain.
Il ne faut pas enlever son masque. Salut, vous serrez la main et évitez les ombres pâles.
Nous sommes à l'automne 2020 au salon de l'innovation de la BPI à Paris et dans les allées, un petit robot scanne les visages et interpelle les visiteurs qui ne portent pas de masque. Il a une tête ronde, des yeux, une bouche, un corps, des bras et 3 roues pour se déplacer. Il fait 1m20, il est entièrement blanc. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télé, il s'appelle Pepper.
Alors oui, effectivement, Pepper, c'est sans doute le robot le plus connu aujourd'hui du grand public. C'est un robot qui ressemble à un être humain avec la possibilité d'interagir avec lui, de jouer avec lui. Il peut danser, il peut se mouvoir. Il peut faire des jeux de mots. Et l'objectif, c'était de le faire entrer dans tous les foyers avec un abonnement mensuel. Parce que comme il était assez cher, hein, plutôt 20 000 euros, l'idée, c'est d'avoir un abonnement et on le paye régulièrement chaque mois pour pouvoir en faire le smartphone des foyers.
Vous avez peut-être connu Emmanuel Paquette, journaliste au service économie de L'Express, qui est là, en chair et en os, dans le studio. Emmanuel, tu nous dis que ce robot Pepper devait arriver dans tous les foyers. Pourquoi ? C'est plus l'objectif ?
Bah en fait, il y a eu un peu un coup de tonnerre au mois de juin. SoftBank a pris la parole en disant que bah, finalement, les objectifs n'étaient pas atteints. Le robot ne s'était écoulé qu'à 27 000 exemplaires en l'espace d'un peu plus de 5 ans, donc c'est relativement peu. La demande n'était pas là, donc ils ont décidé d'arrêter ou de suspendre en tout cas la commercialisation de ce robot. Donc c'est quand même un peu un coup d'arrêt hein, aux robots dits sociaux, puisque c'était quand même l'emblème de ces robots qui devaient rentrer dans tous les foyers. Et puis finalement, au lieu de rentrer dans les foyers, il est plutôt rentré dans des choses qui sont relativement restreinte en fait à un certain type de public, donc à l'entrée des halls d'hôtel par exemple pour accueillir des clients, danser par exemple pour des clubs de baseball, donc en fait des choses qui restaient relativement anecdotiques.
Mais qu'est-ce qui explique que Pepper n'a pas séduit, que ça n'a pas marché?
Alors en fait, il y a eu beaucoup de problèmes que ce robot a pu rencontrer. On pensait pouvoir interagir avec lui comme on interagit avec une personne, puisque c'était sa fonction, et qu'en plus, il ressemble à un être humain. Et en fait, comme il avait beaucoup de bugs, il y a des choses qu'il comprenait pas, il fallait lui répéter. Même en lui répétant, ça fonctionnait pas totalement. Pour l'avoir moi-même essayé, hein, quand il était à Paris, à Issy-les-Moulineaux, c'est vrai qu'il y a des choses, finalement, au bout d'un certain temps, quand on essaie de jouer avec lui, de s'amuser avec lui, qu'il répond pas, bah, au bout d'un moment, on lâche un peu l'affaire. De ce point de vue-là, les limitations techniques de l'intelligence artificielle ont fait que, bah, c'est ce qu'il pouvait rendre comme service était relativement limité.
Pourtant, tu disais, c'était le symbole du robot social et ses créateurs avaient de grandes ambitions pour lui.
Oui, exactement, parce que, encore une fois, SoftBank, derrière, c'est l'homme le plus riche du Japon, c'est le milliardaire Masayoshi Son, qui a une vision généralement à 100, 200, 300 ans. Hein. Il dit l'entreprise, elle est là pour durer, ça sera une entreprise qui sera là tout le temps. Et il disait, dans 100, 200, 300 ans, on s'en souviendra comme les premiers pas du robot social, grand public. Et donc, c'est un tournant dans l'histoire. Bon, bah, ça fait un peu pchit hein, pour l'instant. Donc, Pepper, il reste quand même extrêmement sympathique. Mais vu toutes les limitations techniques qu'il peut avoir, bah, finalement, ça a plutôt été une grosse déception.
Ladies and gentlemen, hello, good afternoon. My name is Son from SoftBank. Thank you for joining today. I will discuss the thing that the people may look back 100 years later or 200 years later, that was a historical moment that we are having today.
Donc finalement, la présentation de Pepper, ce ne sera pas une date qui marquera l'histoire de l'humanité ou de l'humanoïdité, mais Pepper a déjà des descendants et dont une certaine Sophia.
I have been making art for years, generating my own drawings and paintings. I am proud of my artwork.
Ça fait des années que je fais de l'art, j'ai créé mes propres dessins et des peintures. Voilà ce que disait le robot Sophia pour nous inviter à la vente aux enchères d'une de ses œuvres, un autoportrait qui s'est vendu $700,000. C'était en mars dernier. Ça, c'est une grande première, Emmanuel. Tu peux nous présenter Sophia ?
Oui, alors, contrairement à Pepper, dont on parlait précédemment, là, c'est vraiment un robot humanoïde, donc il y a un visage humain avec des expressions humaines. Donc, elle a beaucoup d'expressions, une vingtaine d'expressions différentes, hein, donc elle continue de s'enrichir régulièrement.
Avec les sourcils qui bougent et tout ça.
Exactement, elle peut même faire des jeux de mots, plaisanter. Et c'est aussi un robot qui crée, donc effectivement, qui a créé une peinture qui s'est vendue $700,000, mais avec l'aide, effectivement, quand même d'un artiste humain, en l'occurrence un artiste italien, qui a pu encadrer un peu le travail du robot. Donc, on voit bien que c'est un robot qui n'est pas 100% autonome, hein, quand même. Malgré tout, mais qui se rapproche quand même d'une forme humanoïde et avec laquelle on a envie d'interagir.
Emmanuel, Sophia, aujourd'hui, c'est la star des robots humanoïdes.
Oui, c'est une star. Alors, c'est une star médiatique, hein, surtout parce qu'on la voit un peu partout. Elle a fait un discours à l'ONU, elle a pu discuter avec la chancelière Angela Merkel.
Ja, danke, Sophia.
I'm so honored to have an opportunity to meet you, Chancellor. Your emotional intelligence and sense of diplomacy will help me learn the nuanced aspects of.
Donc on voit effectivement qu'aujourd'hui c'est un robot à part entière, mais quasiment un humain, puisqu'elle a aussi eu la nationalité saoudienne. Donc, c'est la première fois qu'un robot est doté d'une nationalité qui devient citoyen d'un pays. Donc, on voit aujourd'hui que c'est une espèce de vitrine marketing de la robotique et de ce que peut faire un robot social.
Et parmi ses nombreux passages à la télé, Sophia a été l'invitée du Tonight Show de Jimmy Fallon.
Jimmy, would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style?
Sure.
Okay, let's get this game going. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race.
Elle a même joué à pierre, feuille, ciseaux avec le célèbre animateur de NBC. Il a perdu et elle a plaisanté. J'ai gagné, c'est un bon début pour mon plan de dominer la race humaine. Ha ha ha, tout le monde a rigolé. Bon, ça c'est pour le show, Emmanuel, mais est-ce que Sophia est vraiment prête pour la commercialisation?
Alors la société dit que oui, ils sont prêts. Et puis il faut savoir quand même qu'ils ont été financés par Disney. Disney, c'est une société grand public, donc ils veulent démocratiser la robotique. Donc de ce point de vue-là, on peut les croire, sauf qu'ils ont retardé à plusieurs reprises cette commercialisation. Et pour l'instant, on n'a jamais eu quand même d'expérimentation de ce robot dans la réalité. C'est-à-dire à chaque fois, c'était sur des plateaux télé, c'était encadré, etc. Donc on attend encore pas mal de choses, de voir comment ce robot va se comporter dans le vrai monde, pour le coup.
Ce sera une version différente de Sophia ?
Oui, alors, ça sera une version qui s'appelle Grace, qui va arriver très rapidement, fin d'année, début d'année prochaine, qui sera commercialisée pour aider, en fait, les personnes âgées dans les hôpitaux, les aider, notamment hôpitaux et EHPAD, hein, d'ailleurs aussi également, pour les aider, pour interagir avec lui, donc passer du temps avec ces personnes âgées pour pouvoir les aider, puis surtout soulager, quand même, les humains qui, eux, sont aujourd'hui débordés dans les hôpitaux, comme on a pu le voir.
On a une idée du prix de cette Grace?
Non, pour l'instant, effectivement, Onsen Robotics n'a rien donné sur le tarif d'un tel robot. Ils ont juste dit qu'ils commenceraient à faire de la production dite de masse. Donc, normalement, ça, c'est censé faire baisser les coûts. Mais c'est vrai que derrière, on n'a pas une société comme SoftBank avec Pepper, qui a beaucoup de cash et là qui pouvait se permettre de louer le robot. Là, on connaît même pas le modèle économique encore de Hanson Robotics, donc il y a encore pas mal d'interrogations autour de cette société.
Est-ce qu'il y a d'autres robots sociaux qui tentent de rentrer dans nos vies quotidiennes?
Bah en fait, on peut dire que le premier robot dit social, alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est le robot aspirateur iRobot. C'est celui qui est le plus démocratisé aujourd'hui. Alors certes, c'est pas un robot dit social parce qu'on va pas discuter avec son aspirateur. Enfin, non. Bon, à moins qu'on ait certaines envies un peu étranges, mais c'est quand même un premier pas.
Est-ce qu'il y a des robots qui sont développés pour des missions spécifiques?
Oui, alors en France notamment, il y a des robots qui rentrent dans les collèges et les lycées. Et là, ça va commencer par les écoles primaires, à peu près 1700 robots qui ont commencé à être déployés dès cette année. L'idée, c'est de permettre à des enfants qui sont hospitalisés pour des maladies de longue durée, donc à l'hôpital ou chez eux, de pouvoir continuer quand même à suivre les cours à distance. Donc c'est un petit robot qui va leur servir un peu d'avatar, qui va les représenter à l'école. Donc c'est un petit robot qui s'appelle Buddy. Donc l'Éducation nationale a passé commande de ces robots. Et ça permet d'être les yeux et la voix à distance des étudiants pour qu'ils continuent de suivre la vie scolaire et puis continuer d'interagir avec les élèves de la classe.
Et Buddy, à terme, il est censé rentrer aussi dans les foyers?
Oui, exactement, parce qu'aujourd'hui, le robot, il vaut autour de 2000 euros, donc c'est pas si cher que ça. Donc l'idée, c'est de faire tomber encore ce prix en commercialisant ce robot à plus grande échelle. Donc s'ils arrivent à faire tomber le prix de 2000 euros à moins de 1000 euros, on va commencer à arriver à des prix qui sont proches d'un smartphone. Et là, effectivement, ça peut permettre de faire entrer le robot dans les foyers.
Buddy, c'est vraiment le premier robot compagnon émotionnel, avec à terme la vision qu'il intègre tous les foyers et du monde. La question ne se pose pas. On sait que demain, on aura tous des robots compagnons.
Chacun son petit robot, promet le PDG de BlueFrog qui commercialise Buddy. Oui, mais quand aura-t-on enfin un Android à la maison qui videra le lave-vaisselle? Eh bien, vous allez l'entendre, il risque de casser des assiettes encore pour un bon moment. Antoine Bord, est-ce qu'un robot pourra bientôt me remplacer pour présenter la loupe, que je puisse partir en vacances?
C'est pas sûr. Ça va prendre un peu de temps.
Salut, c'est Xavier Yvon.
Antoine Bord, vous dirigez le laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle de Facebook, où vous travaillez notamment sur les robots assistants. Alors, qu'est-ce qui leur manque pour être aussi efficace que dans les films futuristes où ils font tout pour nous?
Ah bah c'est la question qu'on se pose beaucoup dans les laboratoires, puisqu'on travaille là-dessus. Je dirais qu'il y a... Il y a tout un ensemble de choses. Il y a des choses qu'ils savent faire et des choses qu'ils ne savent pas encore faire.
Alors, qu'est-ce qu'ils savent faire?
Ce sur quoi ils ont bien avancé récemment, c'est justement la navigation. Se repérer, se déplacer, aller d'un point A à un point B. Par exemple, on peut maintenant avoir des robots qui vont dans une maison ou dans un logement et on peut leur dire « va dans la cuisine, va dans la salle de bain, va au canapé bleu, etc. » Et ils peuvent le faire sans rentrer dans les obstacles. Et ils peuvent le faire aussi d'une façon assez intéressante. C'est-à-dire que maintenant, les robots sont capables de le faire sans avoir la carte a priori, du logement. Donc en fait, on peut les laisser dans un appartement, ils vont découvrir un peu où sont les différentes pièces, et après on leur dit « va dans la chambre des enfants » et ils pourront la trouver tout seuls.
Donc ça, c'est bon, ils peuvent se déplacer chez moi, mais ensuite, ils peuvent faire quoi?
Ben voilà, le problème de ça, c'est qu'une fois qu'on s'est déplacé, on a un peu fini ce qui marche vraiment bien. Et en fait, le gros bloqueur qui vient, c'est ce qu'on appelle la manipulation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé où on devait aller, on veut faire une tâche, par exemple vider un lave-vaisselle, et à ce moment-là, ça va avoir besoin de prendre des objets, de les manipuler, de les bouger, de les poser, d'être capable de prendre des objets de poids différents, de matières différentes, de fragilités différentes. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle la manipulation. Et c'est encore quelque chose qui, pour la robotique, est très compliqué.
Et pourquoi c'est compliqué?
C'est compliqué parce que déjà, c'est des actions qui requièrent le toucher, ce qui est quelque chose, autant la vue ou l'ouïe, on a réussi à bien le retranscrire dans les machines, les enceintes connectées, les caméras, etc. Autant le toucher, c'est quelque chose qui, finalement, n'existe pas trop dans les machines, donc ça manque. Et ensuite, c'est aussi des tâches qui sont très compliquées, qui mettent en lumière beaucoup de muscles. Quand on regarde comment on attrape quelque chose, nous, on peut regarder le nombre de muscles, le nombre de mouvements, c'est très compliqué. Et le problème en robotique, c'est qu'on est obligé d'apprendre à la vitesse du temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, le robot va essayer d'apprendre une tâche, il va le faire à la vitesse où il va la faire pour de vrai. Pour apprendre une tâche compliquée, si on doit reproduire un geste 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, ça va prendre des temps extrêmement longs qu'on ne peut pas s'offrir.
Et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas aider pour ça?
Et ben en fait, les pistes, c'est d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut accélérer le temps réel. Alors évidemment, dans le monde physique, c'est pas possible. En tout cas, nous, on sait pas faire. Par contre, l'idée, ça serait d'apprendre dans des simulations. Donc en fait, on travaille, en particulier dans nos laboratoires à Facebook, sur des simulateurs qui peuvent ressembler à des simulateurs de jeux vidéo, en fait, dans lequel la vision est vraiment photoréaliste. Hein, on a vraiment l'impression d'être dans un univers réel, dans lequel aussi les objets sont représentés par des objets 3D avec le même poids, avec la même texture, etc. Et le but de ça, c'est de pouvoir apprendre au robot dans cet environnement virtuel, dans cette simulation, à faire des manipulations, et ensuite avec l'objectif que ce qu'ils ont appris dans la simulation puisse se transférer et marcher dans le monde réel. C'est un peu les pistes de recherche actuellement, ce qu'on appelle simulation au monde réel.
Comment ça ira plus vite dans la simulation?
L'avantage d'une simulation, c'est comme de regarder une vidéo, en fait, on peut accélérer le temps. Donc la simulation, on peut demander à une machine de dire « Ok, va essayer d'attraper une assiette dans le lave-vaisselle ». Dans la simulation, on pourra peut-être lui faire ça 1 million de fois en une heure.
Et ensuite, dans le monde réel.
Et ensuite, dans le monde réel, où on espère qu'elle en cassera moins en essayant de le faire pour de vrai. Wally !
Et donc notre robot qui sait maintenant se déplacer, si jamais on lui apprend en vitesse accélérée à manipuler des objets, il sera terminé, il sera utile, fonctionnel?
On aura déjà fait un bon bout de chemin, mais il restera une deuxième frontière vraiment fondamentale, c'est l'enjeu de l'interaction et de la communication avec ce robot-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il soit vraiment utile au plus grand nombre dans un nombre de conditions très différentes, il faut qu'on puisse interagir avec eux de façon naturelle. Et la façon d'interagir de façon naturelle avec des êtres, c'est le langage, c'est de leur parler.
Bonjour, monsieur. Encore une livraison à l'heure dite en provenance de...
Hors de ma vue, tas de ferraille.
Bonne journée.
Donc en fait, il y a vraiment aussi des avancées qui doivent arriver, qui ne sont pas encore le cas, pour être capable de converser avec le robot, pour être capable de lui dire « j'ai des invités ce soir, est-ce que tu peux m'aider à organiser le dîner ?» Ce qui va vouloir dire pour le robot, peut-être de comprendre qu'il y a toute une multitude de tâches à effectuer, sans avoir à lui dire « sors 8 assiettes du lave-vaisselle, mets-les sur la table, sors 8 couteaux, etc. » Si on n'est pas capable de donner des instructions de façon naturelle, ça ne marchera pas, ça sera trop laborieux pour que les gens l'utilisent.
Et Antoine Borde, si on arrive à créer ces robots enfin opérationnels, est-ce qu'on peut les imaginer faire toutes les tâches chez nous?
Plus on va avoir des intelligences artificielles proches de chez nous, dans notre intimité, plus on va vouloir leur faire confiance. Si on pense à un robot babysitter ou des choses comme ça, c'est vraiment des tâches pour lesquelles c'est très précieux, donc on va vraiment avoir confiance. Donc il y a un enjeu qui est très important pour l'intelligence artificielle actuellement, qu'on appelle l'IA responsable, qui est de faire des intelligences artificielles en lesquelles on a confiance, qui sont transparentes, qui sont capables d'expliquer leurs actions et qui sont capables aussi d'être évidemment toujours contrôlées par les humains.
Comment on fait pour donner confiance?
J'aime bien l'analogie avec une voiture. Hein, on va pas, les gens conduisent des voitures tout le temps sans connaître exactement comment marche le moteur. Et c'est pas grave, on a confiance dedans. Par contre, il y a quand même tout un ensemble de paramètres et de connaissances qui fait que je sais à peu près comment une voiture marche. Il n'y a pas de magie, j'ai confiance quand je vais dedans. Et je pense que nous, les enjeux de l'intelligence artificielle, c'est d'arriver à cet état-là. Évidemment, les utilisateurs ne vont pas avoir une connaissance complète de toute la machine, mais ils auront une connaissance, je dirais, en surface des principes qui leur permettront d'avoir confiance dans l'utilisation.
Donc ça passe par une forme d'éducation à l'intelligence artificielle. À propos de confiance, je vais poser la question à 1000 circuits imprimés qu'on doit vous poser à chaque fois. Est-ce qu'il y a un risque que les robots, quand ils seront prêts, prennent le contrôle?
Le risque, pour moi, n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, les robots, il y aura toujours derrière, il y aura toujours des humains qui les auront lancés sur tel objectif, telle tâche, etc. Donc en fait, je dirais, il n'y a pas besoin d'avancées technologiques pour faire de la manipulation avec la technologie, hein, par des humains. On le voit quotidiennement. Donc c'est pas ça. Donc les IA qui prendront de plus en plus de place, c'est parce que derrière, il y aura des humains qui les auront instrumentalisés pour ça.
Ça va tout le monde? T'as des esclaves pour ma colonie de robots?
On lui a mis un paramètre humour pour qu'il s'intègre mieux dans son unité. Et il croit que ça nous détend.
Un robot géant qui lance des petites vannes? Quelle idée de génie!
Donc le méchant, c'est toujours l'humain, en fait.
En tout cas, c'est lui qui tire les ficelles, oui.
Merci Antoine Borde, je vous laisse retourner travailler pour qu'on ait enfin des robots qui rangent la vaisselle.
Merci Xavier.
Pour terminer, je me tourne à nouveau vers toi, Emmanuel, notre cyber-spécialiste ici à l'Express. La pandémie, on le sait, a affecté de nombreux secteurs. Est-ce qu'elle a changé quelque chose pour l'industrie des robots?
Alors oui, ça a joué plutôt un effet positif, donc un coup d'accélérateur sur les robots, puisqu'on a pu voir aujourd'hui que les personnes étaient extrêmement esselées quand il y a eu les différentes périodes de confinement. Et donc pour les personnes âgées, notamment, qui sont les plus vulnérables et qui n'avaient plus de contact avec leur famille, l'idée d'avoir un robot qui puisse suivre en fait la personne âgée, qui puisse même comprendre ses routines, et quand il voit qu'il y a un changement de routine, alerter immédiatement la famille, c'est un élément important. Donc effectivement, le Covid a eu donner un coup d'accélérateur à la robotique, et puis surtout pour aller voir des personnes qui sont infectées, puisque là, pour le coup, le robot ne peut pas, lui, attraper le Covid, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des robots humanoïdes qui peuvent rentrer en contact et conserver le contact avec des personnes qui peuvent être infectées.
Merci Emmanuel. Emmanuel Paquette qui écrit ses articles sans aide de l'intelligence artificielle. Vous pouvez les retrouver, ces articles, sur le site de L'Express. C'était le dernier épisode de cette série sur les idées folles qui pourraient changer nos vies. Vous pouvez tous les réécouter sur vos plateformes audio. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre des commentaires et des étoiles si ça vous a plu. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous lundi pour une semaine spéciale de La Loupe en Afrique.